vendu plus de 20% des réserves en or du pays lors de ses derniers jours au pouvoir.
Demain, France Inter s'installe à New York pendant toute une journée et vous propose en exclusivité à partir de 20h le concert de Patti Smith au Webster Hall.
Un événement unique.
Une soirée présentée par Vali.
Patti Smith en live dans la salle mythique du rock new-yorkais. Pour le public français et américain et pour les auditeurs de France Inter.
Patti Smith en concert au Webster Hall de New York. Une soirée exceptionnelle à suivre sur France Inter. Demain à 20h. France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, vous êtes avec Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Il y a un petit article qui était paru dans Le Canard Enchaîné le 24 août sur David Cameron et puis le maire de Londres où on revient sur leur passé, de ces petits voyous au col blanc qui, dans les années 80, faisaient partie d'un club qui s'appelait le Billington Club. Et donc, vous pouvez vous reporter à ce Canard Enchaîné du 24 août où là, il est mentionné tous les petits faits et gestes de ce club de petits voyous au col blanc qui comme ça, cassaient dans les bars ou dans les trucs bien privés, mais cassaient pour le plaisir de casser, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient redonner, repayer, voilà, derrière, que les parents payaient. Donc, quand Cameron, à la Chambre des députés, prône la prison et le bâton pour taper sur les jeunes, c'est sympa de lire cet article-là. Voilà, je voulais juste préciser ça.
Suite à l'émission de tout à l'heure, j'ai entendu qu'en Angleterre, on dévalorisait énormément les travailleurs, la classe ouvrière. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je connais, c'est un renseignement généreux. Les conseillers de Pôle emploi, en juin ou début juillet, je ne me souviens plus, ont reçu une formation professionnelle dans laquelle on leur explique de faire comprendre aux demandeurs d'emploi qu'ils sont responsables de leur situation. Et ces fameux formateurs ont refusé de répondre aux questions posées par les conseillers qui étaient outrés de ce qu'on leur demandait de faire.
Bonjour Daniel, c'est Thierry, je suis élu et parent d'élève d'une petite commune qui s'appelle Montaud, c'est au nord de Montpellier dans l'Hérault. Cette année, on nous a fermé une classe alors que nos effectifs sont en augmentation. Fermer une classe dans notre petite commune, c'est comme déprogrammer une bonne émission à la radio à des heures de faible écoute. C'est comme licencier deux chroniqueurs parce qu'ils sont critiques. C'est tout simplement dégueulasse. Hier, on a été reçu par l'inspecteur de l'académie. Il veut rien savoir. Il y a un bras de fer qui est engagé. Daniel, tu peux nous aider en parlant de nous dans ton émission. Et les auditeurs aussi peuvent nous aider. Tout simplement en contactant tous les médias à tour de rôle, la presse, la télé, la radio, en leur demandant des comptes sur la petite commune de Montaud qui subit de plein fouet une politique qu'on ne comprend pas trop. Merci à tous.
Bonjour, aujourd'hui 9h, comme ces 4 derniers jours depuis la rentrée des classes, depuis le 5 septembre, plus de 2000 enfants, collégiens et lycéens, parisiens, vont passer leur journée à faire la queue au rectorat suite à la suppression des postes d'enseignants dans l'éducation nationale.
Bonjour, nous, parents d'élèves, en présence des élus locaux, bloquons le collège de Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne depuis ce matin, 8h. Nous réclamons l'ouverture d'une troisième classe de 6e et la nomination d'un CPE. Nous nous interrogeons sur la possibilité de l'équipe éducative de mener à bien le projet d'établissement dont le second levier est bien vivre sa 6e pour un parcours réussi, alors que l'état actuel des moyens donnés serait plutôt bien galérer en 6e pour être sûr de gâcher sa scolarité. À vous de réfléchir.
Oui, salut les AMG, salut toute l'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Didier à Gaillac. Je voulais poser une question à Daniel. Ton émission est supprimée demain, notre émission donc, pour cause de 11 septembre et d'amoncellement de gravats à Ground Zero. Par contre, je voulais savoir si Bernard Tapie était avec l'équipe de France Inter demain. Pourquoi cette question? Mais tout simplement parce que lorsqu'on ouvre le site internet de France Inter, on tombe sur la photo de Bernard Tapie, son adresse internet et son site, pour pouvoir racheter nos crédits. C'est pas beau la vie. J'en conclus donc que M. Bernard Tapie doit être en odeur de sainteté avec votre direction, qui, elle, sera à New York demain. Donc, si la direction a trouvé Bernard Tapie, un bisou à Nard. Et ça fout les boules quand même. Hein. Cet enfoiré nous a bouffé 250 millions et on le retrouve en tête de la manchette de France Inter sur le site internet. Ah, les boules quand même. Hein. Allez, ciao.
On reprend. Terrorisme musulman, terrorisme musulman, terrorisme musulman, terrorisme occident. Quoi ? Sortez-moi ce mouton noir. On reprend. Terrorisme musulman. Allez, maintenant, on monte tous dans l'avion. Allez les médias, allez France Inter. Mais il en manque un. Ah, c'est Mermet. Ça m'étonne pas. Au revoir.
Le petit mouton noir qui reste sur la piste, ben c'est nous, c'est là-bas si j'y suis. Mais quand même, on n'en est pas à dire terrorisme égal Occident. N'empêche qu'effectivement, demain, j'en ai parlé hier, nous ne serons pas à New York pour l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, mais c'est un anniversaire aussi pour là-bas si j'y suis, puisqu'il y a 10 ans, l'émission avait bel et bien était également suspendu. Mais nous allons en parler aujourd'hui, nous allons parler de ce 11 septembre, tel que nous l'avons, on vous l'avait raconté à l'époque, en partie, ce que nous avons retenu au cours de nos voyages par la suite aux États-Unis, et puis un témoignage sur Guantanamo, de tout ce déclin, de toutes ces 10 années qui ont vu un certain déclin des États-Unis, un déclin économique, un déclin moral aussi. Sans doute que Guantanamo n'y est pas pour peu, sachant que Guantanamo est toujours en fonction. Il y a encore environ 170 détenus dans cet enfer que l'actuel président des États-Unis avait pourtant promis de régler. Ces 10 années qui ont durci l'Amérique, c'est notre sujet aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, les médias n'arrêtent pas de nous parler du 11 septembre sans préciser d'année. Alors, moi, j'avais peut-être espoir qu'un jour, on nous parle du 11 septembre 73 et de ce qui s'est passé à Santiago du Chili avec l'appui des États-Unis. Ça aurait été pas mal, un de ces jours. Salut, c'était David de Nantes.
Michel Besson, le directeur de la SCOP Andine, a été arrêté à Tel Aviv, à l'aéroport lundi. Michel travaille à l'établissement d'une filière d'huile d'olive avec les Palestiniens depuis plus de 25 ans. Cette arrestation sans motif montre bien qu'Israël ne peut pas tolérer qu'on laisse le moindre espace d'échange économique et humain entre l'Europe et la Palestine. Michel est un militant infatigable des droits humains et il faut vraiment une réaction très forte.
Ouais Daniel, c'est Gilles Simon là, c'est juste pour dire il pleut, ce Gilles Médo, il pleut des cordes. C'est chiant, moi qui avec les jeux, je dois jouer, mon sang de bonsoir. J'ai besoin d'argent pour mon compte en Suisse, là. Mon banquier m'appelle et me dit alors combien tu ramènes ce mois-ci là. Oh là là là, j'ai plein de pognon, Daniel. Moi j'ai placé tout mon compte en Suisse, c'est pour gagner de l'argent. Je m'en fous de la dette, tout ça, c'est pas mon problème. Merde, il pleut, oh je suis vénère. Bon allez, salut Daniel, c'était Gilles Simon.
War and danger. Continuing danger. Hour of danger. Very, very dangerous world.
September 11th.
September 11th. September
11th. Radical ideology of hate.
We are the police of the court in the court facilities and around the surrounding areas.
On est les policiers de la cour, on est rattachés au palais de justice.
Où étiez-vous le 11 septembre?
Across the street in 100 Center Street in our locker room having breakfast.
J'étais de l'autre côté de la rue au 100 Center Street et j'étais en train d'avoir mon petit déjeuner dans les vestiaires.
We actually heard the explosion and then we were looking out the window and we saw the second plane go right into the tower.
On a d'abord entendu la deuxième explosion, on a regardé par la fenêtre et on a vu le deuxième avion rentrer dans la tour.
Three of our own court officers were killed. They were rescuing people out and the tower collapsed on them.
Trois de nos officiers sont même morts là-bas. Ils sont allés aider les gens et ils sont morts là-dedans quand les tours se sont effondrées.
At 8:48, we will have what we call a mini service. We have the Pledge of Allegiance, a moment of silence for the fallen, and then I sing one of several patriotic hymns.
En fait, on va avoir une petite cérémonie, un petit service religieux avec d'abord le serment d'allégeance au drapeau, puis un moment de silence, et ensuite je chanterai l'un des chants patriotiques américains.
Our chief clerk said we want to continue doing the service, hopefully until the three bodies are recovered and the families can achieve closure.
On veut continuer à faire ça, c'est ce que nous ont dit nos chefs, jusqu'à ce que les trois corps de nos camarades soient retrouvés et que les familles puissent commencer à faire leur deuil.
If we can cut
okay.
it now, and then we're going to continue.
Il faut qu'on s'arrête maintenant parce que je vais commencer.
Have your attention, please. Officers, please face the flag for the Pledge of Allegiance.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Please join us in a moment of silence for the fallen.
Silence. Tout le monde est immobile dans le hall de cet immeuble.
Thank you. We'll now have a musical selection by Officer Ralph Culver.
Ladies and gentlemen, I will be singing Remember the Towers. Let's remember the towers, standing tall and all aglow. Let's remember the towers and the monster's fatal blow. We will always remember how they crumble so helplessly. God bless our heroic families and lead us on to victory.
Salut, c'est Daniel Mermet avec toute l'équipe de là-bas. J'y suis 11, 9, 10 ans après.
Flight number 2, arriving from New York.
Now straight ahead on our continuing coverage of the war on terror.
Nous avons reçu une alerte terroriste pas banale de la part du FBI. Des terroristes pourraient utiliser des pistolets dissimulés dans des stylos contenant du poison.
Bonsoir à tous. L'Amérique est en alerte rouge ce soir, 4 jours avant Noël.
Une possible menace terroriste aussi dangereuse et même pire que celle du 11 septembre.
Mais où ? Comment ? Il n'y a rien de précis à communiquer.
Hors de notre champ de vision des avions téléguidés remplis d'explosifs.
C'est un petit sachet carré qui contient une poudre insecticide. Une poudre pour éliminer les poux, les cafards, les moustiques, les puces et un tas de bestioles pas très agréables. C'est un petit sachet qui contient une poudre et ce petit sachet, nous l'avons trouvé en Bolivie. Par hasard. Et cette poudre, pour éliminer tous ces parasites, s'appelle Bin Laden. Exterminator Bin Laden. Je le tiens dans la main, ce petit sachet qui contient cette poudre qui s'appelle Bin Laden. On l'a rapporté avec Antoine depuis la Bolivie. Voilà. C'est amusant, si on veut. Mais ça indique une façon de voir les choses du côté de la Bolivie. On pourrait trouver sans doute ce petit produit, ce petit sachet ailleurs, en Amérique latine. En France, ce genre d'humour fait grincer. pour la raison que nous avons des États-Unis une idée largement positive. Bien sûr, à deux reprises, les Américains, comme on dit, sont venus sauver notre pays. Les États-Unis, pour nous, c'est le grand modèle, pour la plupart d'entre nous. C'est la propagande par le rêve, c'est le cinéma, c'est tout ce que vous savez et que nous aimons. Mais pour une large partie du monde, c'est exactement l'inverse. Tous ceux qui ont eu affaire à ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Lorsque j'emploie une expression comme celle-là, tout de suite, on me classe parmi les américanophobes, voire même les américanoïaques, avec, pourquoi pas, derrière, un soupçon d'antisémitisme. C'est connu, cette situation, ce petit paysage intellectuel est connu depuis fort longtemps. Or, il y a 10 ans, eh bien, il s'est passé ce que vous savez, avec cette sidération, ce traumatisme qui a été, on peut dire, planétaire. Mais, à l'époque, on aurait fait un sondage au niveau planétaire. Il n'est pas du tout sûr que cela a été la même consternation partout. Pourquoi ? Eh bien, pour une chose très simple qu'a écrite alors Noam Chomsky dans un livre qui s'appelle 11-9 et 11-9, Autopsie des terrorismes. Un livre qui a été un best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires depuis à travers le monde. C'est des entretiens que Chomsky a donné dans les heures qui ont suivi les attentats. Et Chomsky dit ceci, « Rien ne peut justifier des crimes comme ceux du 11 septembre, mais on ne peut considérer les États-Unis comme une victime innocente que si l'on s'arrange pour ignorer leurs agissements et ceux de leurs alliés. » Or, à l'époque, on a quand même largement mis ça de côté, ignoré les causes qui pouvaient être à l'origine de ces attentats. Bien sûr, il n'y a pas de cause directe, mais il y avait indéniablement des causes indirectes. Or, dire cela à cette époque-là, c'était absolument inaudible. Et d'ailleurs, on ne nous a pas beaucoup entendu à ce moment-là. Mais par la suite, évidemment, on s'est à maintes reprises exprimé. On a suivi, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Comment ces attentats ont constitué pour l'administration de George Bush et ceux qui l'entouraient, les néocons qui l'entouraient, une aubaine formidable pour appliquer un projet qu'ils avaient déjà, la Global War on Terror, la guerre générale contre le terrorisme. Car avec la chute de l'URSS, les États-Unis d'Amérique qui devaient leur développement formidable et leur puissance formidable à cette lutte contre cet adversaire, eh bien, étaient dépourvus d'adversaires et cherchaient un nouvel ennemi. Et voilà qu'il arrivait à ce moment-là sous une forme nouvelle, sous une forme sans frontières et virtuelle, le terrorisme. Le terrorisme devenait le nouvel ennemi. Et c'est cette croisade que Bush et les siens ont entrepris pendant toutes ces années en se lançant dans une guerre en Afghanistan, puis en Irak, avec les défaites et les insuccès et les naufrages que nous connaissons. Il y a un lien, et tous les observateurs le font aujourd'hui, entre le déclin relatif des États-Unis et ces guerres, guerres de 3000 milliards de dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars pour le budget militaire pour ces deux guerres, plus 1000 milliards de dollars pour tous ceux qu'il faudra par la suite soigner et pensionner. C'est des dépenses absolument considérables qui se sont faites au détriment des autres budgets sociaux, santé, éducation, etc. C'est donc des choix et des orientations qui ont été faites pendant ces 10 années. Il y a eu également l'adhésion pendant plusieurs années des médias aveuglément à cette politique. Tout ça, il faut l'évoquer. On n'a pas le temps dans l'espace d'une heure, mais on va revenir sur certains points que nous avons vécus et que nous avons partagés ensemble au cours de ces 10 années. C'est là-bas si j'y suis, 11, 9, 10 ans après.
Terrorism, global terrorism, global terrorism, global terrorism, 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 terrorism.
Evil terrorists.
I am the terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-R-I-S, the terrorist, 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 terrorist.
I'm after everybody.
I am the terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-R-I-S, the terrorist, 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 terrorist.
Pull out in the automatic, rat-a-tat-a, a tat-a, a tat-a, never rat-a, it's smoke them, it's see it, the body's dead it, streets, paramedics, push up up on the set, it's a homicide and I dead it, I bet it's deliberate, deeply embedded into its head, it's conniption, convulsion, conjured by motion, I said it, orphan, it's orphan, like Kenny Dorfman, I'm tossing out from the field, you see it's the international slicer, monster slasher, Paul Lasser, section wrecking like Tekken, karate fight, rhyming, repping, move out with special protection, my special move, my spinning glass, I rotation the words, into a boomerang, retrieving the thing. Deadly incision, blood sucking vampire bat fang. Show up Bay Area werewolf in London, around the UK. Well, the wolf, how will eat shit and all be away. My mangle style deform the artist, leaving this Lexus in his Lexus with an ugly bra, smelling like Nexus. Using Humexes, smoking Marlboros. AIDS infectious, weighing less than your gold necklace. She'll share the needle, I know. I'm at addicting and sickening. That's why I keep on inflecting and return. Different human being, each ripping.
Terrorists, 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 terrorists. T-E-R-R-O-I-S, the terrorists, 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 terrorists.
War and danger.
Continuing danger.
Hour of danger.
Very, very dangerous.
September 11th.
September 11th. September 11th.
September radical ideology of hate.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h15 heure américaine. Les tours sont en feu, vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant, on parle de plusieurs morts.
Sidération planétaire, vous vous en souvenez très probablement. Et à ce moment-là, je le rappelle, l'émission avait été suspendue, là-bas si j'y suis avait été suspendue, mais nous avons essayé de savoir ce qui se disait, ce qui se pensait à ce moment-là. Et là-bas si j'y suis était allé à l'église américaine à Paris, qui se trouve sur le quai d'Orsay. Et on avait rencontré là une femme qui, donc on était 3 jours après, nous semble-t-il, avait compris énormément de choses sur ce qui allait se passer, sur ce qui se passait, et qui avait réussi, avec beaucoup de lucidité, à s'extraire de cette sidération générale.
Vous êtes venu à la messe aujourd'hui ?
Oui, oui. Je prouvais le besoin, je voulais faire le minimum, je voulais être dans un endroit spirituel et voir les autres gens qui ressentent à peu près la même chose.
Alors qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ?
Je crois qu'on est aux verges vraiment d'un changement majeur dans le monde. Je crois qu'il est temps vraiment de réaliser qu'on vit tout dans un monde et on ne peut plus avoir une politique agressive, colonialiste, raciste, que vraiment les gens sont égaux et qu'on a vécu trop longtemps dans l'idée que nous, on pouvait tout avoir et les autres rien. C'est pareil pour l'Afrique, c'est pareil pour l'Asie. Et on ne peut pas seulement penser à notre petit monde. Et il faut que le repartage soit plus juste. Et je crois que la politique américaine est très, très décevante. Moi-même, j'ai voté pour Bush et je suis écœurée, absolument écœurée. Je ne crois pas qu'il est à la hauteur, ni moralement, ni spirituellement, ni intellectuellement, qu'il ne comprend pas ce qui se passe. J'étais très fâchée déjà avec son père dans le temps, avec cette guerre de Golfe, que je crois que c'était vraiment une guerre de grandes industries qui voulaient encore plus profiter du pétrole. Et j'ai l'impression qu'il a déclenché quelque chose de l'argent, du pétrole, en se heurtant à la religion. Et je crois que Bin Laden, qui était formé quand même par les Américains pour combattre soi-disant le communisme, je ne crois pas que c'était aussi une solution. Je ne crois pas que, par exemple, il faut toujours blâmer les communistes, blâmer les Afghanistans, blâmer les fondamentalistes, parce que c'est nous qui les poussons dans cette abaisse. Je trouve que la politique américaine se permet d'être dans les mains de quelques-uns qui sont vraiment des grands profiteurs de la bêtise humaine, finalement.
Finalement, c'est un mea culpa, là, que vous faites,
oui.
Américain.
Américain et aussi mondial, mais vraiment mondial.
En quelque sorte, vous sembliez dire que c'est un symbole du capitalisme qui est atteint là, à travers cet attentat.
Non, ce n'est pas seulement le capitalisme, parce que c'est le capitalisme qui s'est heurté vraiment à une guerre des religions. Et ça, c'est le plus explosif au monde. Quand l'Américain commence.
Est-ce que le capitalisme, ce n'est pas une autre religion?
Si on veut dire, oui. We believe in the dollar, we believe in God. Mais vous savez que vraiment, par exemple, cette guerre du pétrole, cette guerre qu'on fait contre les Irakiens, pendant des années aussi, la politique américaine était de dire par la bouche de Madeleine Albright, quand on lui disait, mais vous faites mourir des enfants, vous faites mourir des jeunes civils à cause de l'embargo que vous posez sur l'Irak, elle disait, c'est leur faute à eux. Mais pourquoi c'est la faute à eux? Pourquoi l'Amérique veut dominer le monde par le pétrole d'Arabie Saoudite et finalement sur le pétrole des Arabes? Cette politique qui est tellement pro-israélienne. Et ils, en quelque sorte, les Américains ont mis la petite nation d'Israël en dehors de toute loi. Il y avait 45 votes de veto aux États-Unis, enfin aux Nations Unies, que les Américains ont toujours bloqué. Combien de temps peuvent-ils se permettre d'agir comme ça, sans qu'il y ait de répercussions? Et l'arrivée au pouvoir de Sharon, au lieu de forcer Israël vraiment à abandonner cette politique agressive, il a trouvé en Bush son meilleur ami. Ça, je trouve incompréhensible. Je suis une enfant du Shoah. Je suis née un an après la guerre en Pologne. Mes parents ont quitté la Pologne en 1947. J'ai vécu au Canada, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu aussi en Israël. Je suis citoyen américain, mon mari travaille en ce moment en Amérique, mes enfants sont en Amérique, mais je ne me suis jamais sentie de nulle part.
Quelle est votre intuition sur la réaction probable des Américains, de vos concitoyens, dans les jours, les semaines à venir?
Je crois qu'ils vont changer d'attitude dans le sens où ils vont se sentir en danger permanent. Que ce n'est plus dans les films ou à la télévision, que c'est la vie. Est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils ont le pouvoir, par leur vote peut-être et par des protestes, à faire changer la politique américaine? Je ne sais pas, parce qu'ils sont jusque-là très passifs et pas très... Et il y aura beaucoup, beaucoup de haine, je crois, mais je ne sais pas de quel côté cette haine va sortir. Un peu de la xénophobie totale. Ah, tous ces Arabes, tous ces étrangers, tout est à cause d'eux, etc., 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 etc.
So here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation under the stone-cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down a threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. And here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in the form of a dream. Because take away our PlayStations, and we are a third world nation, under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. I mean, It don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, and boy, did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy.
Ah, Annie DiFranco dans ce poème. On doit certainement envisager un certain recul des protestations planétaires contre la mondialisation qui n'a pas commencé à Seattle. C'est Chomsky, Noam Chomsky, qui parle il y a 10 ans. De pareilles atrocités terroristes sont une bénédiction pour les éléments les plus durs et les plus répressifs de tous bords. Et l'on peut être sûr qu'elles seront exploitées, elles le sont déjà en fait, pour accélérer le calendrier de la militarisation, de l'embrigadement, pour inverser le cours des avancées sociales et démocratiques, pour un transfert d'argent à des secteurs plus étroits et pour saper la démocratie de manière significative. Mais tout cela ne se produira pas sans résistance. Et je doute que cela aboutisse à des succès, sinon à court terme. Voilà, c'est ce qu'écrivait, disait Chomsky, Noam Chomsky, il y a une dizaine d'années. C'est à peu près ce que dit quelqu'un comme Stiglitz aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses évidemment dites et redites sur ces attentats sidérants. Le chercheur belge Jean Bricmont dit d'une façon très provocante, très provocatrice, Ben Laden a gagné. Là, évidemment, il faudrait développer, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais on va revenir sur un entretien que nous avions eu avec Jean Baudrillard, qui, dans les semaines qui ont suivi les attentats, avait publié un livre qui s'intitulait « Esprit du terrorisme ». Rencontre avec Jean Baudrillard le 10 décembre 2002 dans la Basilique du Suisse. Je voudrais qu'on reprenne à partir de l'article que vous avez donné en novembre 2001 sur le 11 septembre, que vous avez intitulé « L'esprit du terrorisme ». Et là, tout d'un coup, vous êtes sidéré, on va dire. Vous dites « Il y avait une grève des événements, on assistait à une grève des événements et ce 11 septembre devient brusquement la mère des événements ». Et vous, c'est bien vos termes.
Oui,
hein,
oui, tout à
fait. Et tout d'un coup, vous êtes presque en admiration.
Oui, mais moi,
En admiration devant cet événement. Alors évidemment, on a dit, ah ben voilà, Baudrillard, c'est bien le réac qu'on avait pressenti.
Voilà.
Il est du côté des terroristes, et puis voilà tout. Quoi.
Voilà.
C'était bien ça.
Ben oui, ça c'est, on ne peut rien contre cette espèce de, enfin je veux dire, de rejet. Enfin, moi je comprends bien qu'il y ait une espèce de réaction immédiate, de type moral, physique, presque sensible à la « monstruosité » entre guillemets de l'événement. Mais moi, c'est vrai que je souffre, je crois, comme tout le monde, de la banalisation, de toute façon, de cette vie, de toute façon. Cette banalisation, cette espèce de virtualisation des choses, etc. Où, en effet, d'événements, il n'y en a plus. Il y a toutes sortes de soubresauts comme ça, de l'actualité et tout. Mais qu'est-ce qui fait événement aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait réellement événement? Dans la scène politique, ça me semble vain de chercher dans la scène politique. Dans le monde intellectuel, il semble qu'en effet, les grands enjeux aient été joués, aient été poussés à la limite et même au-delà de leur propre fin, et qu'on est devant, bon, une forme de désertification du réel, comme on disait dans le film Matrix et tout. Et donc, l'événement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je reconnais vraiment, tout à fait, que j'ai été ébloui par l'événement. On est l'Occident, enfin moi je sais pas, disons cette culture technique, etc., occidentale, est en train de remplir le monde, de le saturer, je veux dire, de satisfaire à toutes les demandes, virtuellement, pas pour tout le monde, mais dans l'esprit c'est ça. Et qu'à ce moment-là, n'importe quel système qui se sature, qui arrive à ce degré de totalisation, il se fracture forcément. Il se scinde forcément, parce que quelque part, le monde, alors pris au sens vraiment radical, il est duel, il y a une dualité, il y a un principe de dualité. Si vous voulez instituer au lieu de ça un principe d'unicité, de totalisation, de mondialisation, à un moment donné, il y a une rétorsion brutale qui se fait. Et là, la rétorsion, elle est passée par le terrorisme, elle passe par le terrorisme aujourd'hui. Elle peut passer par toutes sortes d'autres singularités, pas forcément violentes d'ailleurs. Bon, mais le fait est que nous avons affaire à ça.
Jean Baudrillard, vous allez plus loin, vous dites en somme, nous en rêvions... Ils l'ont fait.
Oui, parce que je pense aussi que nous souffrons, enfin, individuellement, collectivement,
nous l'avons voulu.
Politiquement. Oui, bon, là, il faut prendre les choses quand même. Oui, c'est pas une question de volonté consciente, hein, bien entendu, et sans faire du tout d'analyse en termes de refoulement, etc. Mais cette saturation de la vie, cette complétude, cette réplétion de l'existence moderne pour nous, technique, elle est quelque part, je la crois, inacceptable pour les individus, pour les groupes, pour la société entière. Alors. À ce moment-là, il y a une sorte de, comment dire, de fascination par le pire, enfin, au moins de fascination par, oui, ben, éventuellement, l'accident, la catastrophe, par quelque chose qui viendrait quand même interrompre, enfin, c'est vrai, casser cette perfection virtuelle des choses, quoi. Il n'est pas vrai, sans doute, que nous voulions, du plus profond de nous-mêmes, le bonheur, la perfection, l'assouvissement de tous les désirs, le principe de plaisir réalisé et tout. Ça n'est pas vrai, certainement. Alors, on peut opposer à ça une espèce de fascination étrange, perverse. Moi, je veux bien qu'on l'appelle perverse, mais elle ne me semble pas perverse du tout. L'idée de voir, à un moment donné, défaillir ce qui réussit trop bien.
Here comes a time when we need a real change, when the world must come together at one. There are people dying,
and we don't care about.
We try to make a better world for me and me.
We fuck the world.
We fuck the world.
We fuck the children.
We fuck the children.
We fuck the world, the forest and the sea. So let us do it. We make our own business
just for the USA.
And it's worth destroying your planet to make money.
We fuck the world.
We fight the children.
We fight the children.
We fight the world, the forest and the sea. So let us do it.
There are people dying,
and we don't care about.
We try to make a better world for me and me.
We work for the beauty of America.
Now straight ahead on our continuing coverage of the war on terror.
Au septembre, 10 ans après, de toutes les turpitudes, on va dire, de toutes les horreurs engendrées par cette horreur, il y a eu Guantanamo. Guantanamo, on le disait, vous le savez bien, fonctionne toujours en dépit des promesses de l'actuel président des États-Unis, et on sait à travers des reportages, des témoignages de ceux qui y sont passés, évidemment des détenus, mais aussi des militaires, ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer dans ce centre de Guantanamo. On a rencontré en 2007 Murat Kurnaz, qui était un jeune garçon, un jeune Turc, né à Brême en Allemagne, qui avait été arrêté au Pakistan en 2001 et qui avait été remis aux autorités américaines. Et après près de 5 ans de détention dans la prison de Guantanamo, il avait été libéré en 2006 et il avait publié un bouquin, 5 ans dans l'enfer de Guantanamo, c'était en 2007. Et nous l'avions reçu.
Help! You say you're a fucking fighter, yeah, huh? Yeah. Are you a fucking fighter? Yeah, yeah. No, you fucking stay right there.
I'm gonna go. I don't care.
Come on. Don't move! Don't you fucking move!
Up, move it! Come on!
Come on, come on! Move! On your knees! On your knees! Lie down! Put your legs up!
Pour situer un peu le bonhomme qui est en face de nous aujourd'hui, il est né en Allemagne de parents turcs. À 18 ans, il n'a pas opté pour la nationalité allemande. Et c'est un adolescent un peu idéaliste. Et juste après le 11 septembre 2001, il décide de partir au Pakistan. Il est musulman, très, très croyant. Et il décide de partir au Pakistan pour conforter sa religion, sa foi dans une madrasa près de Peshawar. Et là, il va y passer 2 mois. Et au moment de son retour, quand il revient avec les cadeaux pour la famille, avec son billet d'avion de retour, etc., il va être arrêté par les forces de police pakistanaises. Il va être maltraité, puis vendu, littéralement vendu, c'est ce qu'il affirme, aux autorités, aux services américains qui vont d'abord le transférer à Kandahar, en Afghanistan, puis ensuite à Guantanamo Bay, à Guantanamo. C'est cette histoire qu'il raconte parce que très vite, on va se rendre compte qu'il est innocent. Et les autorités américaines vont le faire savoir aux autorités allemandes et les autorités allemandes vont bloquer le retour de Murat Kurnaz. C'est donc une affaire politique importante en Allemagne et c'est bien évidemment une page particulièrement pathétique et dramatique de ce qu'est contre la terreur. C'est là-bas si j'y suis avec Murat Kurnaz dans l'enfer de Guantanamo. Alors pourquoi vous décidez de partir au Pakistan? Vous aviez 19 ans.
Ich war dort auf einer Schule von Jamaat al-Tabligh.
J'ai été à une école de Jamaat al-Tabligh.
Ce qu'on appelle le tablir.
Jamaat al-Tabligh. Die Jamaat al-Tabligh gibt es überall auf der Welt, nur deren originale Abstammung ist aus Pakistan.
Cette école est dans le monde entier et l'origine est le Pakistan.
Und ihre größte Schule ist in Pakistan.
L'école la plus grande est au Pakistan.
Oui, votre départ au Pakistan, c'était le 3 octobre 2001, c'est-à-dire très très peu de temps après le 11 septembre.
Ich hatte meine Reise schon vor dem 11. September geplant gehabt.
J'avais planifié le voyage déjà avant le 11 septembre.
Und daher habe ich auch nichts daran geändert, auch nach dem 11. September.
C'est pour ça que je n'ai rien changé, même après le 11 septembre.
Ce séjour au Pakistan, c'était où? C'était à Lahore?
In Mansoura Center, Lahore.
Au centre Mansour de Lahore.
Et est-ce que vous aviez le projet ensuite de passer en Afghanistan ou vous vouliez rester simplement au Pakistan dans cette école?
Je n'avais pas l'intention d'aller en Afghanistan.
Und Geschenke von meinen Eltern von der Reise schon alles eingepackt und in der Tasche. Und mein Rückflugticket hatte ich auch schon bereit nach Deutschland.
J'avais déjà mon ticket de retour pour l'Allemagne. J'avais des cadeaux pour mes parents dans mes bagages.
C'est-à-dire que ce que vous dites dans le livre, c'est que vous avez été vendu par les services pakistanais aux autorités militaires américaines.
Das war deswegen in Pakistan sind $5,000 sehr viel Geld.
$5,000 au Pakistan sont beaucoup d'argent.
À quel moment vous avez été transféré à Guantanamo?
Also das war zwischen ich weiß nicht ganz genau welchen Monat noch, aber es war also ich muss hier noch erwähnen, wir haben die Uhrzeit wissen dürfen, wir haben keine Uhren haben dürfen und wir durften noch nie nach der Uhrzeit fragen oder Datum sonst was. Und nur ich bin circa ein paar Monate in Kandahar geblieben.
Je suis resté quelques mois au Kandahar, mais on n'avait pas droit d'avoir des montres, on savait pas l'heure, on n'avait pas droit de demander. Je peux pas le dire exactement.
Comment vous étiez traité à Kandahar?
Jeder wurde gleich behandelt. Sie haben uns hungern lassen und sie haben uns der Kälte ausgelassen, also zum Teil ohne Kleider. Und,
Chacun a été traité de la même façon et ils nous ont laissé affamés, on nous a exposés au froid, en partie privés de vêtements.
Also, sie haben uns gefoltert, bis so viel sie konnten, und einige sind sogar dabei gestorben durch diese Folter.
Ils nous ont torturés tant qu'ils pouvaient et il y en avait des morts.
Ich selber wurde bei Ketten aufgehängt für mehrere Tage. Mit Zwischenpausen haben sie mich runtergebracht, damit ich nicht sterbe. Sondern da ist der Arzt gekommen, hat geguckt, ob ich noch am Leben bin und noch aushalten kann. Dann haben sie mich wieder aufgehängt. Das ging für ein paar Tage so.
Ils m'ont suspendu par des chaînes et m'ont laissé comme ça. Puis ils sont venus regarder si je vis encore. Après, ils ont recommencé.
Es waren fast immer die gleichen Fragen. Also es waren eigentlich nicht Fragen, sondern es waren Sachen, die sie von uns hören wollten.
C'était à peu près toujours les mêmes questions. En fait, c'était pas des questions, mais ils voulaient entendre de nous certaines choses.
Sie haben gesagt, du bist von Al-Qaida, und wenn ich nein gesagt habe, haben sie geschlagen.
Ils ont prétendu que j'appartiens à Al-Qaïda et quand j'ai dit non, ils m'ont battu.
C'est ça qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient se prouver que tu appartenais à Al-Qaïda.
Ja, sie wollten, dass ich halt Papiere unterschreibe oder sage, dass ich von Al-Qaïda bin. Und immer wieder, wenn ich nein gesagt habe, haben sie halt geschlagen.
Ils voulaient que je signe des papiers comme quand j'appartiens à Al-Qaïda et quand je l'ai pas fait ou quand j'ai dit non, ils m'ont battu.
Sie haben halt getreten oder mit der Faust geschlagen und mich auf Ketten aufgehangen.
Ou bien ils m'ont foulé aux pieds ou battu avec les poings ou ils m'ont suspendu avec les chaînes.
Dans son livre témoignage, Mourad Kournaz décrit ce qu'il a subi à Kandahar, et il n'est pas le seul. Il y a d'autres témoignages qui concourent et qui convergent. Il y a un film qui s'appelle Road to Guantanamo qui raconte une histoire tout à fait semblable, sauf que ce sont de jeunes Anglais qui passent par les mêmes endroits et qui subissent les mêmes choses. Aujourd'hui, Mourad Kournaz, revenu en Allemagne, décrit donc ces choses d'une façon tout à fait terrifiante dans ce livre. L'histoire de Mourad Kournaz est connue, et notamment de Patti Smith, qui lui a consacré un chant. Finalement, tu as été transféré à Guantanamo. Est-ce que tu peux raconter ce transfert?
Sie haben uns lange Zeit vor dem Transport nichts zu essen gegeben.
Longtemps avant le transport, ils n'ont pas donné à manger.
Dann haben sie uns die Augen gefesselt.
Et puis ils nous ont bandé les yeux.
Und Ohrschutz aufgetragen.
Ohrenschutz.
Ohrschutz. Also, damit man nichts hören kann.
Un bandeau sur les oreilles aussi, pour qu'on n'entende pas.
Und halt Maske.
Ja, Maske.
Womit sie die Nase und Mund geschlossen haben.
Pour fermer le nez et la bouche.
Und uns halt gefesselt und Handschuhe aufgebracht, damit sie auch nichts anfassen können.
Et ils ont été ficelés, ils avaient des gants pour ne pas toucher quelque chose.
Wo die ganzen Finger in einem Stück drin sind.
C'est des gants spéciaux pour qu'on touche rien. C'est wie Fäustlinge, ne?
Ja.
Oui, comme des moufles plutôt.
Und dann haben sie uns halt mit sehr vielen Ketten gefesselt im Flugzeug.
Ils nous ont enchaînés dans l'avion.
Und dann ging die Reise los. Und
puis le voyage a commencé.
Est-ce qu'on vous a dit où vous alliez? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi vous étiez là?
Die haben halt nur Witze gemacht, wo sie uns ins Flugzeug gebracht haben. Die haben gesagt, ja, wir bringen dich irgendwo hin, wo wir dich abschießen und sonst was.
Ils ont fait des blagues dans l'avion et ils ont dit, on va te mettre quelque part ou on va t'exécuter.
Les autres prisonniers venaient d'où?
Aus 42 anderen Ländern.
De 42 autres pays.
International. Wo ich angekommen bin, da haben sie erstmal haben sie uns geschlagen. Und
quand je suis arrivé, ils ont commencé par me battre.
Später haben sie aufgehört zu schlagen, haben sie uns auf dem Boden knien lassen und Fotos von gemacht.
Puis ils ont arrêté de nous battre et ils nous ont forcé de nous agenouiller par terre et ils ont commencé à prendre des photos.
Und ja, dann haben sie uns irgendwann halt wieder die Augen aufgemacht vor irgendwelchen Käfigen.
Et puis ils nous ont ouvert les yeux devant des cages.
Et puis?
Ja, dann ging das halt weiter. Das, wir mussten in diese Käfige rein.
Ils nous ont forcé d'entrer dans ces cages.
Es sind halt diese ganz gewöhnlichen Hundekäfige, die jeder von uns kennt.
Ce sont les cages normales pour les chiens que tout le monde connaît.
Tu dis dans le livre, dans l'enfer de Guantanamo, tu dis qu'un gardien du camp te dit « Est-ce que tu sais ce que les Allemands ont fait aux Juifs ? On va te traiter de la même façon. »
C'était un Américain parlant allemand.
Ah bah, das ist wahr.
Mais c'est vrai.
Alors là, les interrogatoires ont commencé. Tu racontes dans le livre toute une série d'interrogatoires, toute une série de tortures que tu subis, que subissent les autres détenus, qui vont depuis l'électricité, la pendaison, la privation de sommeil. Au moment où vous voulez faire votre prière, on a l'hymne américain qui est diffusé dans des haut-parleurs. Est-ce que tu peux raconter un peu tout ça en quelques mots ?
Ja, natürlich. Das war, sie haben halt fast bei jedem unterschiedliche Foltermethoden angewendet, und aber es fast bei jedem getan.
Ils ont utilisé des formes de torture différentes pour les différentes personnes, mais ils ont torturé tout le monde.
Und also ich selbst, mich haben sie mit Elektrizität zum Beispiel gefoltert.
Moi-même, ils m'ont torturé avec de l'électricité.
De quelle façon?
Aus Metall, und da war noch ein Box dran gebunden, wo dann Kabeln zu diesen Bügeln führen. Und dann haben sie das aneinander gerieben. Aus Metall halt.
C'était des barres de métal et c'était, il y avait des câbles électriques branchés dessus et puis ils ont frotté.
Torture à l'électricité.
Teilweise Metall mit Plastikgriffen und sonst was.
Qu'est-ce qu'on voulait te faire dire? Quelles étaient les questions qui t'étaient posées?
Was wollten sie aus dir herausbringen?
Die wollten, dass ich erstmal ein Papier unterschreibe.
D'abord, ils voulaient que je signe un papier.
Und erstens, ich konnte diese Papiere nicht mal lesen, es war nicht auf meine Sprache.
D'abord, je pouvais pas lire, c'était pas ma langue.
Aber ich konnte sehen, dass da viele Wörter drin standen mit Al-Qaida, Taliban und sonst was.
Ce que j'ai compris, c'est qu'il était souvent question de Taliban et d'Al-Qaida.
Ich war damals 19 Jahre alt, sie haben mir 5 Jahre von meinem Leben weggenommen.
À ce moment-là, j'avais 19 ans et ils m'ont pris 5 ans de ma vie.
Est-ce qu'il y a eu des révoltes?
Es gab sehr viele Aufstände.
Oui, il y en avait beaucoup.
Also es haben welche sogar versucht, sich das Leben zu nehmen von den Gefangenen, wo sie gesehen haben, dass der Koran beschädigt wird, halt geschädigt wird.
Il y en avait parmi les prisonniers qui ont essayé de se suicider quand ils ont vu qu'on méprisait le Coran.
Und das hat den Amerikanern natürlich gefallen, damit wussten sie, dass sie vieles erreichen konnten.
Et ça faisait plaisir aux Américains parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient atteindre un tas de choses avec ceci.
Tu racontes dans ton livre que parmi les moyens de pression et dans les interrogatoires, il y avait des femmes qui vous provoquaient sexuellement.
Ja, sie haben es halt versucht, dass die haben alle möglichen Methoden versucht anzuwenden, damit sie uns erpressen können oder. Das war auch eine andere Art von Folter. Natürlich, sie wussten, dass wir als Moslem sowas nicht machen. Und deswegen haben sie es auch angewendet.
Ils ont essayé différentes choses, et ça aussi. Et ils savaient que les musulmans, ils n'avaient pas droit de réagir à ceci.
Est-ce que pour qu'on comprenne bien à quoi ça ressemblait, est-ce que tu peux nous décrire une journée à Guantanamo?
Ich kann nur einiges erzählen, zum Beispiel. Es gab Zeiten, wo ich monatelang nur im Dunkeln gewesen bin und gar nichts gesehen habe.
Je peux raconter de différentes choses, par exemple le fait que j'ai passé plusieurs mois dans le noir sans rien voir.
Plusieurs mois?
Mehrere Monate. Einmal waren es 3 Monate.
Oui, plusieurs mois. Une fois, c'était 3 mois.
Tu dis dans ton livre que des médecins assistaient aux tortures. Pourquoi exactement?
Weil der erste, zum Beispiel, wo ich auf Ketten gehangen habe, da haben sie mich immer wieder runtergenommen und geguckt. Die Ärzte sind gekommen, haben uns unsere Finger auf die Finger gedrückt, Fingernägel, und geguckt, ob wir es noch durchhalten. Puls gemessen oder sonst was und uns in die Augen geschaut mit Lampen, damit sie wussten, ob wir noch weiterhin Folter aushalten können oder dass wir jetzt sterben werden und dass die eine Pause einlegen müssen.
Oui, par exemple, quand ils ne suspendaient pas les chaînes, il y a des médecins qui sont venus vérifier où on en est. Ils ont appuyé sur les ongles, ils ont regardé avec la lumière dans les yeux, ils ont pris le pouls pour savoir combien de temps on tiendrait encore. Si on, s'il est possible de continuer encore.
Continuing danger. Danger. Very, very dangerous.
September 11th.
September 11th. September 11th.
September radical ideology of hate.
Aujourd'hui, Mourad Kournaz a retrouvé une vie à peu près normale. Il faut rappeler que le 31 janvier 2005, le juge fédéral Hans Green avait dénoncé la situation, le cas de Mourad Kournaz, pour illustrer l'iniquité et les irrégularités inhérentes à la procédure d'examen administratif suivie par les autorités à Guantanamo. Mais rien n'y a fait. Il a fallu attendre l'intervention de la chancelière Angela Merkel à Washington en janvier 2006 pour que le dossier se débloque. C'était quelques aspects de ces 10 ans depuis le 11 septembre 2001. À relire L'esprit du terrorisme de Jean Baudrillard, paru en 2002 aux éditions Galilée, Dans l'enfer de Guantanamo de Mourad Kournaz, paru en 2007 aux éditions Fayard, et puis Noam Chomsky, 11-9, autopsie des territoires. À la technique aujourd'hui, Alice Berger, Guillaume Lacroux, c'est Bertrand Chaumeton et Franck Adhérère qui ont réalisé cette émission assistée de Marna Touyez et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Il est 16h et quelques secondes sur France Inter. On se retrouve non pas demain, les petits moutons noirs restent sur la piste, mais on se retrouve lundi à 15h pour la base. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Bénédicte Dupont. Bon, salut.
Un psychologue est toujours retenu en otage à la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Un détenu de 17 ans incarcéré pour vol aggravé le menace depuis la fin de la matinée avec une arme blanche. Le GIGN est en négociation, mais les revendications du jeune homme n'ont pas été dévoilées. La dernière prise d'otage dans la plus grande prison de France remonte à septembre 2008. John Galliano, condamné à la peine minimale, mais bel et bien condamné. En début d'après-midi, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu le styliste britannique coupable d'injures antisémites. Il le condamne à 6 000 € d'amende avec sursis et à 1 € symbolique de dommages et intérêts aux victimes et aux associations antiracistes. À 2 reprises l'hiver dernier, John Galliano avait insulté un couple dans un bar parisien. À l'audience en juin dernier, il avait présenté ses excuses, mettant en avant ses addictions à l'alcool et aux médicaments. Jean-Noël Guérini, lui, devrait attendre la fin d'après-midi pour savoir si la justice le met en examen. Le président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône se trouve en ce moment au palais de justice de Marseille face à 2 juges d'instruction. Il doit s'expliquer sur des malversations possibles lors d'attributions de marchés publics. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous retirons nos investissements de France. C'est peu ou prou la décision aujourd'hui de Coca-Cola. Mécontent d'une prochaine taxe sur les boissons sucrées, le géant américain vient de suspendre les 17 millions d'euros octroyés à son usine des Pennes Mirabeau, près de Marseille. La taxe sur les sodas fait partie d'un plan d'austérité voté hier par les députés examinés en ce moment par le Sénat. Le déficit de la sécurité sociale n'aura jamais été aussi important. 30 milliards d'euros, c'est 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Un véritable record. La crise n'y est pas pour rien, c'est vrai, admet la Cour des comptes dans son rapport annuel. Mais la conjoncture n'explique pas tout. Le système de fixation des prix et de remboursement aurait leur part de responsabilité, selon la Cour des comptes. Et puis ce matin, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, s'en est pris au laboratoire Servier. Xavier Bertrand a sommé le laboratoire empêtré dans le scandale du Mediator de bien vouloir collaborer avec les autorités sanitaires. Le ministre s'est également dit prêt à soutenir la demande de la Sécurité sociale de contraindre Servier à verser une caution de 255 millions d'euros pour couvrir une partie des dommages et intérêts aux victimes. La police allemande a peut-être évité un attentat à la bombe à Berlin. Deux terroristes présumés ont été interpellés ce matin dans la capitale allemande. Rien ne laisse supposer, ceci dit, que les suspects étaient en lien avec un réseau ayant déjà commis des attentats. Kadhafi ressurgit sur les ondes. Dans un message audio diffusé ce matin, l'ancien guide suprême libyen dément les rumeurs de fuite. Alors qu'on le dit réfugié au Niger ou au Tchad, il affirme être toujours en Libye pour combattre. Un message pratiquement sans écho puisque le CNT vient d'annoncer que les forces rebelles avaient pris le contrôle de la Vallée Rouge sur la route de Sirte, principale ligne de défense des pro-Kadhafi. Et puis pour finir ce flash, cette histoire insolite, l'histoire d'une carte postale arrivée à destination 41 ans après son envoi. Elle a été envoyée en juillet 1970 de Haute-Savoie. Son destinataire vient de la recevoir dans le Lot. Mieux vaut tard que jamais.
On aura tout vu pour cette deuxième édition. Laurent, nous allons regarder le cinéma américain 10 ans après le 11 septembre.
Oui, que raconte-t-il et comment réagit-il? Avec des cinéastes américains, un regard français, celui d'Olivier Assayas.
Et un contre-champ arabe, celui du cinéaste égyptien Yousri Nasrallah.
Je ne m'attends pas à ce qu'un film américain vienne parler de nous, les Arabes.
Le cinéma, c'est le samedi à 10h.
Ce à quoi je m'attends, c'est... Oui, simplement en tant que spectateur de cinéma, raconte-moi réellement un peu ce qui se passe chez toi, quoi.
Avec Christine Masson.
Et Laurent Delmas.
France Inter. La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric L'Odéon.
Bonjour Bénédicte Dupont.
Bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Demain, journée exceptionnelle, vous le savez, bien sûr en direct de New York en grande partie, et cet événement est très important, cette attaque il y a 10 ans des Twin Towers, évidemment, marque les esprits à juste titre, et donc France Inter va s'y consacrer. Néanmoins, il ne faut pas oublier d'autres anniversaires, par exemple les 40 ans de l'Orchestre National des Pays de la Loire, qui va fêter ce moment important de sa carrière, le 11 septembre, oui, c'est la même date, et ce sera à Fontevraud, dans cette belle abbaye de Fontevraud, non loin de Saumur. Et on va pouvoir entendre dans ces lieux somptueux le même programme qui a été donné lors de la création de l'orchestre il y a 40 ans. Le chef d'orchestre était Pierre Dervaux. Et il y avait la Symphonie Fantastique de Berlioz, La Mère de Claude Debussy, Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Alors aujourd'hui, l'orchestre, vous l'avez peut-être vu et entendu lors des Victoires de la Musique, les dernières. L'orchestre est dirigé par John Axelrod, superbe chef d'orchestre américain. Et moi, j'ai envie de vous faire entendre quelques extraits des disques de l'Orchestre National des Pays de la Loire pour célébrer cet anniversaire, ces 40 ans, je le rappelle. Voici par exemple l'ouverture de Gaieté parisienne, d'après, largement, on peut même dire, d'après Jacques Offenbach, largement inspiré d'Offenbach et remanié pour faire un ballet qui a eu un grand succès mondial par Manuel Rosenthal.
Thank you.
Ouverture de Gaieté parisienne, Jacques Offenbach, revue, retouchée avec amour par Manuel Rosenthal et interprétée par l'Orchestre national des Pays de la Loire, dirigé par Hubert Soudan, qui a été un des chefs marquants de cette belle formation. Je rappelle qu'on va fêter les 40 ans de l'Orchestre national des Pays de la Loire à l'abbaye de Fontevraud ce 11 septembre. Donc un concert exceptionnel et c'est à 17h. Après ça, il y a une dégustation. Alors évidemment, ce sera du saumur champigny qui sera servi, c'est la région qui le veut. L'Aliénor Café. Bon, attention pour le retour en voiture, bien sûr. Peut-être un sur deux qui déguste, ou bien un ou deux verres, ça suffira. Et de belles réjouissances après la musique. Je vous propose d'entendre de nouveau l'Orchestre des Pays de la Loire avec, dans une pièce tout à fait superbe et touchante. En fait, composée pour piano à quatre mains, c'est la petite